Radio Okapi.
Encore des réactions aux attaques de dimanche dernier à Kinshasa. Les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo Senko se disent indignés et condamnent ces attaques. Dans ce journal, vous suivrez aussi l'avis du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières. L'annulation de l'élection de Grasby Lolo comme gouverneur du Congo central pour raison d'irrégularité, ainsi en a décidé le Conseil d'État qui enjoint à la CENI de réorganiser l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs pour cette province. Julie Londo est notre invitée. Elle est le point focal de l'UCOFEM, Union congolaise des femmes des médias. Elle a organisé dimanche avec l'Union des jeunes pour le développement et la reconstruction un atelier de sensibilisation des jeunes du quartier Ngongolio dans la ville de Beni pour les amener à adopter l'expression non violente de l'opinion. Bonjour à tous. Les archevêques et évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo Senko se disent indignés et condamnent les attaques perpétrées dimanche contre le palais de la Nation et la résidence de Vital Kamerhe par un groupe d'hommes armés. Les évêques catholiques font remarquer qu'au moment où les efforts sont déployés pour juguler l'insécurité sémée par les groupes armés, il est inadmissible qu'un groupe armé élise domicile au cœur de Kinshasa. Par ailleurs, face à cet acte de mépris pour l'inviolabilité des institutions étatiques de la RDC, les prélats catholiques invitent les autorités compétentes à s'engager davantage à renforcer la cohésion nationale et le peuple congolais à ne pas céder à la peur et à demeurer vigilant. On écoute Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Senko au micro de Grâce Hamza Timasanzi.
Du côté de la Senko, c'est l'indignation, c'est la condamnation. On ne peut pas accepter qu'on manque du respect aux institutions du pays et puis qu'on joue avec la vie humaine à ce niveau jusqu'à tuer des innocents qui n'ont rien à faire avec la gouvernance de ce pays. C'est quelque chose que les évêques ne peuvent pas accepter. C'est avec grande stupeur, comme vous avez lu, qu'ils ont appris cette nouvelle. Les évêques mentionnent dans leur message d'indignation et de condamnation le regret de voir le service de sécurité nargué à ce point, mais le plus important, c'est la recommandation que les évêques font aux autorités de s'engager davantage pour renforcer la cohésion nationale. Mais l'essentiel du message, c'est s'indigner et surtout condamner ces groupes armés qui commencent à jouer avec les institutions du pays et surtout la vie humaine.
De son côté, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, a salué hier la promptitude dans la réaction des forces de défense et de sécurité face au groupe d'hommes armés qui ont tenté de renverser les institutions à Kinshasa. Il l'a dit lors de l'émission Dialogue entre Congolais DEC de Radio Okapi, animée par Kéline Kouté. Suivez.
Ces gens sont venus du Congo central avec l'objectif effectivement d'attenter à la vie de plusieurs autorités politiques. Il s'agit d'une tentative de renversement des institutions républicaines. Lorsque ces gens vont au siège, donc dans les bureaux du président de la République, ils descendent les drapeaux congolais, symbole de notre souveraineté. Ils hissent un drapeau qui n'est pas congolais. Donc vous comprenez que leur démarche ne visait pas seulement l'élimination physique des autorités politiques, mais également de renverser les institutions de la République. Et malheureusement pour eux, nos forces ont intervenu pour les neutraliser.
Au Nord Kivu, un calme précaire règne ce mardi dans le territoire de Masisi. C'est notamment dans les localités qui étaient toute la journée hier, lundi, le théâtre des affrontements entre les groupes armés locaux et le M23. Ces combats ont une fois de plus mis sur le chemin de l'exil des centaines d'autres ménages, indiquent nos sources sur place. Au moins 5 assaillants Mobondo ont été arrêtés ce lundi lors des affrontements opposant les FRDC aux miliciens Mobondo à la frontière des provinces du Kwilu et du Kwango. Les forces de défense et de sécurité ont également mis la main sur une femme fétichiste qui assurait les forces obscures des miliciens. Ils sont tous en détention au village Fatundu, chef-lieu du secteur Wamba, dans le territoire de Bagata. La nouvelle est livrée par le député national élu de Bagata, Gary Sakata, qui salue l'action des FRDC. Il alerte cependant pour obtenir une assistance en faveur des blessés du village Parking RB, qui sont actuellement en soins intensifs au village Kingala Matele. On écoute le député Gary Sakata au micro de Irène Boma.
Il y a eu des affrontements entre le FARDC et les miliciens faisant partie du groupe Mobondo. À la suite de ces affrontements, non-voyantes forces armées ont mis la main sur quelques miliciens Mobondo, à peu près 5. Et ils ont également mis la main sur une dame qui initiait ces Mobondo aux pratiques fétichistes. Tout ce petit monde se trouve être à Fatundu, où ils seront certainement acheminés vers Bandundu-Ville, où ils seront transférés à la prison centrale de Bandundu-Ville et éventuellement auditionnés par le parquet. Il y a eu effectivement plusieurs blessés parmi les civils. Et nous demandons donc l'appui de l'État qu'il puisse prendre en charge les 6 personnes qui sont gravement blessées et qui sont au centre de santé de Kingalamatele ainsi qu'à l'hôpital de Kikongo en territoire de Bagata. Nous saluons et félicitons nos vaillantes forces armées qui ont amélioré leur mode opératoire en étant sur le site en vue de maîtriser tous ces criminels et bandits Mobondo.
Recrudescence du banditisme urbain ces derniers temps à Kalemie. Des cas de cambriolage de plusieurs maisons dans différents quartiers de la ville sont enregistrés régulièrement. 2 personnes agressées à la machette et un présumé voleur brûlé vif par la population. Face à cette situation, le maire de Kalemie interdit la circulation des motos à partir de 22 heures. Paulin Munanga.
Les derniers cas en date se sont produits dans la nuit de dimanche à lundi. Au quartier Kitoku, dans la commune de la Lukuga à Kalemie, des sources rapportent que des voleurs ont emporté les biens d'une maison et blessé les propriétaires avec une machette avant de disparaître dans la nature. Sur l'avenue Maïto, au quartier Kataki 1, dans la commune de Kalemie, des témoins renseignent qu'un présumé voleur qui a tenté d'emporter des bidons vides a été attrapé par la population puis brûlé vif. Le chef d'avenue condamne ce cas de justice populaire. Dans la nuit de samedi à dimanche, des sources signalent que des malfrats munis d'armes blanches ont attaqué plusieurs maisons sur les avenues Tanganyika et de la Paix 1 dans la commune de la Lukuga. L'une des victimes annonce que des bandits ont blessé son enfant de 13 ans à la tête à l'aide d'une machette. Face à cette insécurité, le maire de Kalemie a dans un communiqué officiel limité à dater de ce mardi la circulation des motos dans la ville à partir de 22 heures et la circulation reprend à 5 heures du matin. Kalemie, Pole Munanga, Radio Okapi.
Au Kassai-Oriental, arrestation ce lundi par la police nationale congolaise de 2 bandes de jeunes délinquants qui sèment la terreur et la désolation dans quelques quartiers de la commune de Djoulou. Ces délinquants ont été surpris pendant qu'ils s'affrontaient hier lundi non loin du rond-point Ozana après une bagarre rangée le week-end dernier dans une fête. Des explications avec Esther Ndalafina.
Les témoins affirment que ces 2 bandes de jeunes délinquants ont été appréhendés par les éléments de la police lorsqu'ils livraient un combat pendant la journée avec des armes blanches non loin du rond-point Ozana dans la commune de Djoulou. Leurs chefs de bande ont réussi à prendre le large, précisent les sources policières. Elles indiquent par ailleurs que ces 2 bandes de jeunes délinquants ont perturbé le week-end dernier une fête où certains d'entre eux ont été conviés à prendre part. Les éléments de la police les ont dispersés quelques heures plus tard. Après leur arrestation ce lundi, ils ont été conduits d'urgence au palais de justice. Un procès en flagrance est donc envisagé dans les heures qui viennent. Mais déjà, ces jeunes ont passé leur première nuit à la prison centrale de Mbujimayi. Signalons que plusieurs quartiers de Mbujimayi sont actuellement secoués par des actes de barbarie, des bagarres à la machette et d'extorsion commis par des groupes de jeunes délinquants. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Contentieux électoral, le Conseil d'État enjoint à la CENI de réorganiser l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs du Congo central. Hier tard dans la soirée, il a décidé de l'annulation de l'élection de Grace Bilolo comme gouverneur du Congo central pour irrégularité. Rappelons que la Cour d'appel du Congo central, faisant office de la Cour administrative d'appel, a entériné au premier degré le 7 mai l'élection de Grace Nkwanga Bilolo comme gouverneur de la province du Congo central au détriment de Guy Bandou, ancien gouverneur de cette province, qui a contesté cette élection au second degré devant le Conseil d'État. Des câbles électriques aériens, Kinshasa en compte des kilomètres, un phénomène qui s'est développé à la suite de la détérioration des anciennes lignes souterraines. Et le phénomène continue de s'étendre, modifiant même la vue aérienne dans plusieurs quartiers. Beaucoup de Kinois, même ceux qui y recourent, s'inquiètent de la présence de ces câbles qui représentent aussi un danger pour eux-mêmes. Babel Mpongo et Marie-France Mungindu nous en parlent dans ce reportage.
Lorsqu'on circule dans plusieurs quartiers de Kinshasa, on se croirait sur le passage de l'homme araignée au Spider-Man. Des câbles électriques aériens sillonnent les rues, ils pendent, sont dénudés par endroits, touchent même le sol avec tous les risques d'électrocution. Il leur arrive aussi de prendre feu, mettant des parcelles voisines en danger. Les Kinois, surtout ceux qui ont leur habitation ou leurs activités à côté des câbles à problème, s'inquiètent. Ils appellent la SNEL à mettre de l'ordre dans ce domaine.
Il y a beaucoup de risques. S'il pleut, nous pouvons passer en dessous ici. Il y a une masse. Les enfants peuvent facilement être électrocutés. Il arrive que les câbles se coupent. Ça peut traîner même une ou deux semaines sans intervention de la SNEL.
À la SNEL, Denis Tukuzu, son directeur provincial à Kinshasa, annonce que l'entreprise a mis en place un projet visant à résoudre ce problème.
La SNEL a mis en place avec la Banque mondiale un grand programme appelé projet de remise en conformité du réseau qui va se faire de commune en commune. Si c'est un réseau souterrain, ce réseau souterrain va maintenant répondre à toutes les normes électrotechniques liées à la matière, qu'elles soient ainsi aussi pour les réseaux souterrains.
Ce projet, s'il se concrétise, contribuera à protéger des vies. Il aidera aussi à améliorer l'image de la ville dans plusieurs quartiers.
Des médias américains rapportent que les États-Unis sont disposés à alléger les sanctions contre l'homme d'affaires Dan Gettler, mais dans le contexte actuel, des acteurs de la société civile s'opposent farouchement à cette décision qui favorise, selon eux, l'impunité. Explication de Cynthia Bachizina-Bizana.
En 2017, les États-Unis ont sanctionné Dan Gertler pour corruption et violation des droits humains dans le cadre de ses activités minières en RDC. Il a été ainsi banni du circuit bancaire en dollars américains. Pour le coordonnateur national de Filimbi, membre de la coalition Le Congo n'est pas à vendre, il est trop tôt pour évoquer une quelconque levée de sanctions qui pèse sur le milliardaire israélien Mino Bopomi.
Dan Gertler avait profité de son amitié étroite avec l'ancien président Joseph Kabila, pour servir d'intermédiaire pour la vente d'actifs miniers en RDC, et ainsi obligeant certaines sociétés multinationales à passer par lui pour faire affaire avec l'État congolais. Et il est aujourd'hui très clairement démontré qu'à la suite de ces actions de Dan Gettler, la RDC a perdu, donc entre 2010 et 2012, un montant évalué à 1,3 milliard de dollars de revenus, dû à la sous-évaluation des actifs miniers qui ont été par la suite revendus à des sociétés offshore liées appartenant à Dan Gettler.
Pour les acteurs de la société civile, aussi longtemps que la RDC ne sera pas rétablie dans ses droits et récupérée 100% du manque à gagner occasionné, les sanctions américaines doivent être maintenues.
Actualité internationale. Les vols ont repris au principal aéroport international d'Haïti hier lundi 20 mai, 3 mois après sa fermeture due à la violence des gangs qui gangrènent Port-au-Prince. La réouverture de l'aéroport Toussaint-Louverture dans la capitale haïtienne devait permettre d'atténuer la grave pénurie de médicaments et d'autres fournitures de base alors que le principal port maritime du pays reste paralysé. L'Afrique du Sud salue la demande des mandats d'arrêt du procureur de la Cour pénale internationale contre des dirigeants d'Israël et du Hamas. Le gouvernement sud-africain est l'un des principaux défenseurs de la cause palestinienne. Il avait notamment porté plainte contre Israël devant la Cour internationale de justice, l'accusant de génocide à Gaza.
L'invité.
Une cinquantaine de jeunes du quartier Ngongolio dans la ville de Beni au Nord Kivu ont été sensibilisés dimanche à l'expression non violente de l'opinion. C'était à l'occasion d'un atelier organisé par la section de communication stratégique et de l'information publique de la MONUSCO Beni en collaboration avec l'Union congolaise des femmes des médias UCOFEM et de l'Union des jeunes pour le développement et la reconstruction. L'objectif de l'activité est de réduire sensiblement les manifestations violentes dans ce quartier réputé pour être l'un des plus chauds de la ville. Julie Londo, point focal de l'UCOFEM à Beni, explique dans cet entretien avec Sadiki Aboubakar. Suivez.
Julie Londo, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de rencontrer des jeunes de l'Union des jeunes pour le développement et la reconstruction dans le quartier Ngongolo. C'était pour quelle fin?
Oui, au fait, on est venu pour échanger un peu avec le jeune de Ngongolo. C'est par rapport à la liberté d'expression. On a voulu échanger avec eux pour leur montrer qu'on peut exprimer ses opinions sans pour autant être violent. Et donc, on a échangé. On a aussi parlé de la désinformation et de la manipulation de l'information où ils nous ont montré qu'ils sont la plupart des fois victimes de la désinformation. désinformation. Et du coup, on a eu le temps d'échanger avec eux, de leur montrer comment ils peuvent détecter une désinformation, comment ils peuvent détecter une manipulation de l'information.
Et pourquoi avoir choisi la jeunesse du quartier Ngongolio? Est-ce qu'il y a un mobile particulier?
Oui, au fait, le quartier Ngongolio, c'est parmi des quartiers qui sont un peu chauds, qui sont la plupart des fois dans la rue pour manifester et tout. Donc, on sait que s'il y a manifestation, faut pas arriver à Ngongolio parce que c'est là même la base où tout se passe. Alors, on a dit, bon, pourquoi ne pas le voir? Et du coup, on a échangé, on a trouvé que ce sont juste des jeunes qui sont manipulés et qui ont promis dorénavant de vérifier chaque fois des informations avant d'entrer dans la rue.
Parmi les causes ou les raisons qui les poussent à beaucoup plus de manifestations violentes, qu'est-ce qu'ils vous ont dit concrètement?
Oui, parmi les raisons, ils ont soulevé la manipulation de l'information, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a l'un qui nous a dit clairement que non, ils sont manipulés. Des fois, on leur dit que non, il y a un véhicule de la MONUSCO qui vient de passer avec des armes à bord, ils vont remettre ça aux ADF et tout. Et du coup, ils se disent, mais comment les gens qui sont censés nous sécuriser contribuent à notre insécurité? La plupart des fois, ce sont des leaders d'opinion qui manipulent l'information et le manipulent aussi. Ils suivent juste les informations dans la rue, dans les médias sociaux.
Et pour quelles raisons les leaders d'opinion manipuleraient l'opinion, si je peux me répéter
Oui, en fait, les leaders d'opinion manipulent la population, c'est pour ses intérêts. Ils peuvent être dans le gouvernement où ils ne savent pas répondre aux besoins de la population. Du coup, ils manipulent les informations contre quelqu'un d'autre pour se couvrir, quoi.
Bien, c'est aussi une façon de se prévaloir une certaine importance au sein de la communauté pour se faire une santé politique.
Tout à fait. C'est une façon aussi de se faire connaître parce qu'à Benin, nous savons que si vous voulez avoir une image, si vous voulez vous faire connaître, il faut commencer dans la rue et tout. On a certains leaders qui ont commencé dans la rue à manipuler les gens et puis un jour, ils se sont fait un nom. Du coup, tout le monde veut passer par là.
Est-ce que vous comptez étendre ce genre d'activité dans toute la ville pour essayer de toucher toutes les couches?
Oui, c'était notre but. On a commencé par Ngongolio et nous pensons qu'on peut, si nous trouvons des moyens, on peut même aller jusqu'à avoir des groupes de pression parce que l'IJDR n'est qu'une mutuelle de jeunes. Mais il y a maintenant ces groupes de pression là qui, eux aussi, ils sont dans des groupes de pression, mais ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils entrent dans la rue, ils ne savent même pas pourquoi ils sont dans la rue. Et aussi, ce sont des gens à voir, à échanger avec et à leur montrer la vraie vérité et à leur montrer comment traquer une fausse information ou comment savoir qu'on est en train de manipuler une information. Voilà, et nous avons les soucis d'aller vers eux et d'échanger aussi avec eux. Donc nous projetons d'autres activités dans ces sens pour essayer d'aller plus loin dans les groupes de pression, dans le mouvement citoyen, échanger aussi avec ces gens-là parce qu'ils ont vraiment besoin de la vraie information qu'ils n'ont pas.
Alors cette question ne concerne pas seulement la région de Beni, mais c'est toute la République. Quel message voudriez-vous lancer à toute la jeunesse du pays par rapport à l'expression pacifique ou non-violente de son opinion?
Oui, au fait, les messages que je peux lâcher à toute la population de la République, c'est que la violence n'a jamais résolu un problème. Je crois que ça va faire bientôt 10 ans qu'on assiste à des manifestations violentes, mais on n'a jamais eu de solution à nos problèmes. Les problèmes sont toujours là. Les problèmes persistent. C'est nous-mêmes, la population, qui en sommes encore victimes. Donc nous manifestons nous-mêmes et c'est nous-mêmes qui subissons même les conséquences de ces manifestations violentes. Et donc, le message que je peux lancer, c'est juste appeler la population et une expression non violente. Il y a plusieurs façons de s'exprimer et je crois que le gouvernement peut nous écouter sans pour autant être violent. Donc exprimons-nous, oui, parce que c'est un droit qui nous revient. Exprimons-nous, mais n'appliquons pas la violence parce que jusque-là, ça ne nous a rien apporté à part d'autres désolations.
Julie Londo, merci.
Merci.
Et c'est la fin de ce journal, la grande édition de la mi-journée sur Radio Okapi. À la présentation, c'était Noëlla Luzito Kabambi, un journal mis en onde par Billy Landry Betou, dans une coordination de Élisée Chikota Chivueta. Place au journal des sports avec Enoch Matondo.